Voilà, je propose ces soirées de façon un petit peu libre, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu peut-être sur les papiers d'information, chacun vient à l'heure qu'il veut et repart à l'heure qu'il veut pour que vraiment on soit libre de venir après son travail, après avoir couché les enfants ou que sais-je, enfin, voilà. Donc vous ne vous gênez pas pour partir quand vous voulez, ou pour les prochaines fois venir simplement à l'adoration ou bien simplement à l'enseignement ou que sais-je. Il y a plusieurs temps différents. D'abord, il y aura un temps d'enseignement, effectivement, de 20 minutes, une demi-heure pour commencer. Alors, j'ai fait un petit plan pour l'année, donc je vais vous montrer ça. Et puis ensuite, j'exposerai le Saint-Sacrement et chacun de nous pourra prendre un temps de prière silencieuse, un petit peu comme il l'entend, comme il le veut, en se mettant dans l'église où il veut, dans la posture qu'il veut, que sais-je. Ce sera un temps plus d'adoration avec peut-être certains moments guidés. J'interviendrai par un petit chant ou bien petite prière, enfin voilà, de façon spontanée, libre, mais essentiellement pour intérioriser. Voilà, et puis s'il y avait des gens qui le souhaitaient, ensuite vers 22 h, pour ceux qui resteraient à cette heure-là, la possibilité comment dire, d'un temps d'intercession, si vous souhaitez qu'on prie à une intention qui vous est chère, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, donc il y aura la possibilité à cette heure-là, devant le Saint-Sacrement qui restera exposé, de prendre un petit temps d'intercession à l'intention que vous donnerez. Ça ne veut pas dire que vous parlerez publiquement devant tout le monde. À la cantonade pour dire j'ai compris pour ça. Enfin, il faudra quand même qu'on le dise au moins à la personne qui sera à côté de vous pour qu'on puisse intercéder. Dans les groupes de prière du renouveau charismatique, c'est ce qu'on appelle la prière pour les frères et ça a toujours porté beaucoup de fruits. C'est-à-dire que j'ai observé que les moments où nous prenons un temps de prière tout humble, tout simple, à plusieurs, sont souvent bénis par le Seigneur au niveau des grâces qui sont données après, pendant et après. Et parce qu'on a eu la simplicité de dévoiler devant d'autres une demande personnelle, et puis on a eu la simplicité aussi à plusieurs de prier, d'intercéder, de demander de façon très pauvre. Voilà, donc vous savez, il n'y a rien de compliqué dans tout ça, mais il faut oser le faire. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je reprends ce que je disais. Il y aura trois temps successifs dans ces soirées. Le premier, ce sera un temps d'enseignement. Le second, un temps d'adoration sur la durée d'une heure entière, de 9 h à 10 h. Et puis ensuite, pour des gens qui resteraient à 22 h, un temps d'intercession pour des intentions spécifiques que vous donnerez en vous déplaçant ici devant le Saint-Sacrement. Voilà, pour compris pour vous ou pour d'autres personnes. En ce qui concerne le temps d'enseignement, j'ai pensé que ce serait utile cette année de donner quelques éléments sur la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une vie spirituelle? Et donc, en 9 points différents, en 9 points différents, on les abordera. Enfin, ça va faire 8 points au total, en 8 chapitres, si vous voulez, successivement. On essaiera d'approfondir un tout petit peu cette question. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? Où est ma vie spirituelle? Prenez le point 1, par exemple, le mois prochain. Où est ma vie spirituelle? Ce n'est pas d'abord au plan physique, ce n'est pas non plus au plan psychique, c'est vraiment au plan spirituel, et il y a souvent beaucoup de confusion entre psychique et spirituel. Et puis, il faut bien distinguer aussi la vie intérieure et la vie spirituelle. Des gens peuvent avoir une vie intérieure profonde qui n'est pas pour autant une vie spirituelle mue par l'Esprit Saint. Ce n'est pas la même chose. Donc la vraie question, c'est bien celle-ci, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Au mois de novembre, notre réflexion portera sur la question du voyage, la vie spirituelle comme voyage. C'est-à-dire le fait vraiment de s'engager dans la vie spirituelle de façon ferme, stable, avec des balises peut-être, des exigences. Faut-il un maître spirituel? Faut-il un conseiller spirituel? On essaiera de répondre à cette question. Et puis, comment aussi sans cesse vivifier le désir intérieur de Dieu pour tenir tout au long du voyage que ça peut représenter, tout au long de notre vie, avec des étapes différentes selon les époques. Au mois de décembre, on essaiera de voir comment la vie spirituelle s'enracine dans une expérience vivante et personnelle. Tant qu'il n'y a pas d'expérience personnelle, on risque de ne pas vraiment pouvoir développer sa vie spirituelle. Elle prend racine dans une expérience de la présence de Dieu. Alors cette expérience de la présence de Dieu, elle peut être donnée, elle peut être recherchée longuement. Il y a des gens qui cherchent quelquefois pendant de longues années, puis qui finalement disent « Depuis le temps que je demande la foi, je l'ai toujours pas reçu. » C'est éprouvant. Et puis, cet enracinement peut quelquefois être imposé. Il y a des portes d'entrée qui sont des portes heureuses, comme par exemple toute expérience d'amour, ou bien l'expérience de la beauté, mais il y a des portes d'entrée qui sont douloureuses aussi, c'est-à-dire l'épreuve, la souffrance, quelquefois la conviction de péché que le Saint-Esprit met en nous qui nous mène au repentir. Ce sont des portes douloureuses pour permettre à la présence divine d'entrer dans nos vies, de nous donner l'expérience personnelle qui va s'enraciner, donc d'être visité par l'Esprit Saint, la visitation de l'Esprit Saint. Au mois de janvier, nous parlerons de la vie spirituelle comme un développement qui nécessite une certaine connaissance, qui nécessite un approfondissement de connaissance. Connais-toi toi-même, vous connaissez l'adage, mais le fait de vivre une certaine décantation par rapport à qui on est soi-même, le fait d'avoir à distinguer le travail psychothérapeutique, c'est très à la mode aujourd'hui, et puis la démarche spirituelle, ce n'est pas la même chose. Et le travail psychothérapeutique, s'il est nécessaire, peut quelquefois tourner un miroir de soi, on se regarde soi-même, alors que la vie spirituelle doit être miroir de Dieu. On se laisse regarder par Dieu et on contemple Dieu. La connaissance par la méditation des Écritures. Comme dit Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. La connaissance qui consiste à développer l'intelligence spirituelle, qui n'est pas la même chose que l'intelligence rationnelle. L'intelligence spirituelle par l'écoute de la parole. Au mois de février, nous aborderons la question incontournable de la pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans application dans le concret de notre vie. Il doit y avoir une cohérence entre notre vie de foi et notre comportement extérieur. C'est là-dessus souvent que les gens qui nous entourent nous jugent et puis nous mettent en défaut. Et donc, doit se mettre en place dans nos vies une certaine volonté de rigueur, d'ascèse, une certaine acceptation du silence, de la solitude aussi, pour nous laisser rejoindre par Dieu. Et puis, une pratique des vertus. On verra ce que ça signifie. Mais une pratique des vertus chrétiennes. Ce qui n'est pas exactement la même chose que les valeurs humaines. On parle beaucoup aujourd'hui des valeurs. On entend ça à tout bout de champ, dans les demandes de baptême. Nous voulons transmettre nos valeurs à nos enfants. Certes, mais le travail des vertus chrétiennes, ce n'est pas exactement la même chose. Alors évidemment, on parlera aussi de la prière, de la pratique de la prière, de la pratique des sacrements. Mais vous voyez bien que la vérification de la vie spirituelle dans la pratique, ce n'est pas seulement la pratique de la prière et des sacrements, c'est beaucoup plus large que cela. Au mois de mars, on parlera de la vie spirituelle comme d'un combat. Un combat nécessaire, où il y a des épreuves, où il y a des pièges. Et j'ai listé trois types de, comment dire, d'épreuves et de combats. Intégrer les épreuves et la souffrance, ça c'est quelque chose d'indispensable si l'on veut grandir spirituellement. Et on regardera l'exemple de Job. Combattre pour approcher de Dieu. Vous savez, quand on parle du combat spirituel, on parle souvent du combat comme d'un combat contre les tentations. Puis on s'aperçoit que dans la Bible, il y a des pages où le combat spirituel est présenté comme un combat avec Dieu, un combat contre Dieu. Étonnant. Jacob, par exemple, dans le livre de la Genèse. Donc on regardera ce passage de l'Écriture qui est essentiel. Et puis on parlera aussi du combat spirituel tel que Jésus nous le présente dans... tel que les évangiles nous les présentent dans le récit des tentations, comment Jésus débusque les illusions et déjoue les tentations. Voilà. Au mois d'avril, nous parlerons de la vie spirituelle comme une transformation de nous-mêmes en Dieu. Une transformation qui va jusqu'à l'union avec Dieu. Et vous savez que les étapes de l'union avec Dieu par les grands mystiques ont été balisées. Ils parlent des commençants, des progressants et des parfaits. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila emploient ce type de vocabulaire. Ou encore, ils parlent de la voie purgative, de la voie illuminative et de la voie unitive. Oh, ça ressemble à des gros mots. Les mots barbares, les mots qu'on n'a jamais entendus. Et aujourd'hui, en plus de ces trois étapes, compte tenu de l'immaturité humaine dans laquelle nous sommes, peut-être faudrait-il ajouter l'étape des aspirants, avec la question de la voix, non pas la voix, mais la voix thérapeutique. Il y a souvent, vous avez remarqué que, par exemple, dans les séminaires, pour entrer au séminaire diocésain maintenant, souvent on propose aux jeunes une année de propédeutique dans ce sens. Au mois de mai, nous parlerons de la vie spirituelle comme d'une réalité qui nous permet un usage surnaturel de la vie quotidienne. Comment elle nous pousse à quitter un humanisme horizontal, mais comment aussi elle doit exiger de refuser un verticalisme stratosphérique, c'est-à-dire qui se perd vraiment dans les nuages et qui, au fond, n'est pas chrétien fondamentalement. Car le christianisme se vérifie dans l'équilibre de l'incarnation. Donc, la vie ordinaire, concrète, c'est le lieu de la sainteté. Ça, pour moi, c'est essentiel. La vie ordinaire, concrète, c'est le lieu de la sainteté. Et puis enfin, au mois de juin, on parlera de la vie spirituelle comme d'un fruit de joie, enfin, le fruit de la joie. La vie spirituelle doit nous mener à la joie. On distinguera le plaisir, qui est physique, le bonheur, qui est psychique, et la joie, qui est spirituelle. Et donc, faut-il persévérer quelquefois avec tristesse ? Ça peut arriver. Mais il faut essayer de persister avec allégresse. Et dans ce sens, la gratitude, la louange peut nous aider à accueillir la joie. La joie de participer à la sainteté de Dieu, c'est la véritable joie chrétienne. Et la vie spirituelle réelle doit porter la signature de la joie. Alors voilà, j'ai mis un programme, mais dans nos rencontres que nous aurons ainsi le soir, dans ce temps d'enseignement, nous essaierons d'une part de prendre l'un de ces éléments, et s'il le faut, je vous laisserai des feuilles écrites, parce que je n'irai pas jusqu'au bout, ou bien vous pourrez les télécharger sur Internet. Et puis dans un deuxième temps de l'enseignement, on essaiera de voir quelques petites recettes, entre guillemets, pratico-pratiques. Ce soir, on va en voir une, c'est la question de l'adoration eucharistique. Qu'est-ce que c'est exactement, comment la vivre? Mais on pourra en voir beaucoup d'autres, des petites recettes toutes simples, comme la prière dite prière de Jésus, qui consiste à répéter le nom de Jésus, ou une invocation courte, avec le cœur, avec la respiration. On pourra parler de la récitation de la salutation mariale et de la méditation de l'Écriture avec sur fond marial. On pourra parler de bien d'autres choses au niveau de, comment dire, de petites mises en place concrètes. Par exemple, les miettes de prière qu'on peut vivre tout au long de la journée dans des petits moments. Voilà. On pourrait parler aussi de la, pourquoi pas, de la mémorisation orale de la parole. C'est aussi quelque chose de très concret pour laisser la parole alimenter en nous la vie spirituelle. Voilà, donc il y aura un enseignement de base qui suivra ce programme, puis il y aura un temps pratico-pratique qui n'aura rien à voir, sans doute, probablement rien à voir avec ce qu'on aura dit avant, mais qui constituera un petit peu une fiche technique, si vous voulez, utilisable voilà, dans toutes sortes de circonstances. Et donc vous pourrez trouver sur internet à la fois l'enseignement de fond, la fiche technique et puis le fichier son de l'enseignement pour ceux qui le souhaiteraient. Si par exemple il y a un soir où vous ne pouvez pas venir, vous pourrez quand même télécharger les documents pour garder le fil là. Alors la fiche technique de ce soir, la suggestion pratique que j'ai intitulée numéro 1. Prier en silence dans une église, devant le tabernacle ou devant Saint-Sacrement exposé. Il y en aura d'autres qui consisteront à dire prier en plein bruit dans sa voiture ou que sais-je. Là, ce soir, puisqu'on va un petit peu aborder à l'adoration eucharistique, je vous donne quelques pistes. Il y a quelque chose qui me semble assez étrange et désolant aujourd'hui, c'est le fait que nos églises restent fermées, mais que si elles sont ouvertes, elles restent tout aussi vides que si elles sont fermées. C'est malencontreux, mais c'est la réalité. On ne va pas s'accuser et s'autoflageller, mais c'est quand même une question. Et donc, peut-être faut-il dire que entrer dans une église, faire la démarche de venir jusqu'au tabernacle, y rester quelques instants, c'est quelque chose d'essentiel pour le chrétien, c'est-à-dire c'est la reconnaissance de la véracité de la présence eucharistique de Jésus parmi nous. Et donc, ce qu'on appelait autrefois la visite au Saint-Sacrement, on peut appeler la comme vous voulez, peu importe, mais le fait, quelquefois, de ne pas passer devant une église quand on en a la possibilité et qu'elle est ouverte. Vous savez, quand on travaille. Donc quand vous faites un petit voyage, par exemple, avec votre voiture en traversant la France, par les routes secondaires, vous n'arrêtez pas de rencontrer des églises, et donc vous avez aussi la possibilité d'une adoration d'église en église quand vous êtes à votre volant, qui consiste à prendre acte que dans cette église, il y a probablement la présence eucharistique. Mais c'est important d'avoir cette culture eucharistique et cet acte de foi eucharistique. Ces points que j'ai listés ici, je les ai pris chez le père Descouvement dans un papier qu'il a mis à disposition des gens qui veulent adorer, et il dit ce qui est important, enfin il dit c'est pas substantiellement différent de toute prière d'oraison, de toute prière silencieuse. Il dit il est important de désirer au fond, d'attendre, de venir à l'adoration ou à la prière silencieuse avec un certain désir, comme un moment important. Donc non pas en traînant les pieds, en traînant la savate, mais vraiment avec un désir au fond du cœur qui consiste à véritablement prendre acte que je repartirai enrichi de ce temps que je vais passer. Mais il y a toujours au fond de moi cette réticence et cette lourdeur qui consiste à y venir quelquefois effectivement en traînant un peu et en maugréant. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Deuxième aspect, il faut savoir commencer un temps de prière d'adoration. On peut le commencer par un geste qui peut exprimer notre respect, notre désir de rencontrer le Seigneur en vérité. On peut se mettre à genoux. J'ai constaté que les rotules maintenant des chrétiens étaient extrêmement atteintes, puisque pratiquement ils ne savent plus se mettre à genoux. Et nous pouvons nous agenouiller un moment devant le tabernacle ou devant le Saint-Sacrement exposé, si c'est le cas, tracer un beau signe de croix sur nous, murmurer une invocation, par exemple celle de Thomas dans l'Évangile, Mon Seigneur et mon Dieu, mais ça peut être aussi celle du centurion, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, de t'accueillir, de me tenir en ta présence, mais cependant j'en suis heureux. Voilà, commencer, entrer, savoir entrer. Ensuite, il y a bien sûr la question de l'attitude corporelle. Parce que si on veut pouvoir retirer du fruit de la prière silencieuse, de la prière d'adoration et d'oraison, il faut ne pas être gêné par son corps, mais au contraire, que le corps soit un atout pour cette prière. Donc, il faut, au bout d'un petit moment, adopter l'attitude corporelle qui va nous permettre de rester quelques instants vraiment dans un silence intérieur. Alors ça peut être assis le plus souvent, mais pour les personnes qui sont à l'aise, ça peut être à genoux sur ses talons, à genoux assis sur ses talons, ça peut être debout, enfin voilà, toute position sauf la position allongée, quoique quelquefois on en trouve. Toute position, du moment qu'elle nous entraîne à rentrer dans l'intériorité de l'adoration, est bonne. Mais il faut savoir se caler soi-même pour faire de son corps un allié. Le Père d'Escoumont dit ensuite, il faut mettre le contact, c'est-à-dire établir le dialogue entre notre moi le plus profond et celui que nous venons adorer. Tu m'attendais, Seigneur, me voici. Donc se situer devant le Seigneur lui-même, non pas laisser vagabonder nos pensées, non pas apporter nos intentions, si lourdes soient-elles, d'abord, non pas réciter des prières. Il y a quelquefois une religiosité populaire qui. Non, non, non. D'abord, se mettre en présence du Seigneur. Vous savez, le paysan du curé d'Ars, si vous connaissez comme moi, je l'avise, il m'avise. Voilà. Et rentrer en contact avec une personne, avec la Trinité elle-même, les trois personnes de la Trinité. Le Père d'Escoumont nous dit ensuite, bien rectifier notre intention. C'est pour toi, Seigneur, que je viens, c'est ton plaisir que je cherche et non le mien. Je n'attends ni émotion sensible, ni pensée originale, ni expérience Je viens essentiellement te donner la joie de me redire ton amour et de me transformer. Fais de moi ce qu'il te plaira pendant ces minutes que je te consacre. Je ne désire rien d'autre. Et à travers cette intention, vous voyez vous-même que, au fond, l'adoration ou l'oraison silencieuse consiste à se laisser travailler par Dieu. Il y a une alchimie mystérieuse qui s'accomplit. On ne sait pas très bien ce qui se fait, ce que Dieu fait, parce que c'est trop profond pour qu'on en ait perception. C'est justement au-delà des perceptions sensibles ou spirituelles, mais Dieu nous travaille. Et donc, quand on a compris cela, on est plus motivé pour être régulier dans l'oraison. C'est Dieu qui nous travaille. On n'est pas là pour apprendre des choses à Dieu, pour lui dire des choses, il sait tout. On n'est pas là d'abord pour intercéder pour d'autres. On est là pour se laisser saisir par la sainteté divine et transformer très très en profondeur. C'est mystérieux, mais c'est réel. Comment dire, la preuve se vérifie ensuite dans la charité qu'on a dans la journée. C'est-à-dire que Au fond, on peut vivre une prière extrêmement sèche en ayant le sentiment d'avoir mal prié, d'avoir pas établi de contact avec Dieu, mais dans la charité qu'on vivra dans la journée, on vérifiera que si, notre prière était bonne. Voilà. Autrement dit, on ne vérifie pas la validité d'une prière au sentiment qu'on en retire d'avoir bien prié, ça c'est parfaitement factice, mais à la charité qu'on est capable de vivre dans la vie concrète. On peut ajouter à cela avoir avec soi quelques supports qui nous permettra de revenir au dialogue intérieur au moment des inévitables distractions. On est assez éclaté intérieurement et donc inévitablement on décroche. On a beau essayer d'être unis au Seigneur, inévitablement il y a un moment où l'attention décroche et où alors on se retrouve aux prises avec notre cinéma intérieur de l'imagination. Et donc il est bon à ce moment-là d'avoir avec soi sa Bible, d'avoir avec soi une feuille de prière, d'avoir avec soi, les textes du jour, ou encore une liste de quelques personnes pour qui on veut intercéder, ou encore son chapelet, enfin, à chacun de trouver quelques petits moyens tout simples qui lui permettront de se ressaisir et de durer plus. Voilà. C'est sûr que venir à un temps d'oraison un peu les mains dans les poches, c'est courir le risque de se battre un peu longuement avec son imagination, tandis que le fait d'ouvrir l'écriture et quelquefois de lire un verset qui va être vraiment une nourriture nous permettra de traverser ces moments avec beaucoup plus de facilité. Enfin, une avant-dernière indication, prendre l'habitude d'un déroulement précis. Alors ça c'est vrai pour sa prière personnelle quotidienne, mais ça peut être vrai aussi pour un temps d'adoration ou d'oraison, un temps de silence, une petite lecture biblique, un temps d'intercession, le Notre Père, un signe de croix pour finir, que sais-je. Ça c'est à chacun de se faire un petit peu sa petite liturgie, mais voilà, il faut quand même baliser un peu le temps qu'on va passer. Si vous donnez 10 minutes... Bon, voilà. Si vous donnez 20 minutes, il y a le temps de descendre, de s'apaiser, de rester en paix, puis après, de prendre quelques nourritures avec la Bible, de penser à certaines intentions. Voilà. Et puis, je dirais, en repartant, continuez à prier intérieurement, en gardant un recueillement propice pour rester à l'écoute de Dieu, mais aussi propice à être attentif aux autres, dans une grande charité. C'est évident que venir prendre un temps d'adoration, et puis rentrer chez soi, ouvrir la télévision à plein tube et regarder un film, c'est détruire quelque part ce qu'on vient de construire. Quoi. C'est malencontreux. Et il est bien certain que poursuivre ensuite, en entrant dans la nuit, par le silence, c'est beaucoup plus fructueux pour le temps qu'on vient de passer dans la prière. Donc voilà quelques repères, si vous voulez, l'oraison et l'adoration, la prière silencieuse, devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement exposé.